5h55, on vous souhaite un bon début de journée. L'affaire Jonathan Bété, vous savez, cette semaine, on vous a dit, c'était un peu sans précédent. On pouvait pas vous dire grand-chose parce qu'il y avait des éléments qui étaient devenus publics. Tout ce qu'on va vous raconter est devenu public dans la journée de mardi.
Mardi, brièvement.
Et une ordonnance de publication par la suite. Et ça semblait être un cas un peu d'admission d'erreur de la part de la Couronne qui avait laissé aller rendu public 800 pages de documents dans l'enquête Jonathan Bété, dont des éléments d'enquête extrêmement précis sur comment la traque avait été faite pour le faire passer à certains aveux dans l'histoire Cédrica Provencher.
Oui, donc,
ça a été sans succès, finalement, ce qu'on comprend là.
Mais c'est-à-dire, oui, donc voilà, une traque qui a duré, s'est étalée sur plusieurs années. On connaît maintenant donc des détails au sujet de Jonathan Bété, qui, je le rappelle, est accusé en lien avec de la pornographie juvénile. Donc en début de semaine, c'est des centaines de pages qui avaient été rendues publiques. L'ordonnance a finalement été levée hier au terme de procédure qui est amenée, entre autres, par les avocats de La Presse et de Radio-Canada. Ce qu'on apprend dans les documents, c'est d'abord qu'il est le seul propriétaire d'une voiture qui correspondait à la description du véhicule suspect dans la région à ne pas avoir d'alibi vérifiable pour la soirée où Cédrica Provencher disparut. La Sûreté du Québec a ensuite mis en place un faux concours. Ils ont fait croire à Jonathan Bété qu'il avait gagné un séjour dans un hôtel de Mont-en-Remblant. Tous les autres gagnants qui l'accompagnaient étaient des agents d'infiltration. L'un d'eux avait pour mission de tisser des liens avec lui. L'agent d'infiltration va ensuite, au cours des mois qui vont suivre, rencontrer Jonathan Bété, avec qui il s'était lié d'amitié, pour des parties de golf, des repas au restaurant. L'agent va ensuite lui prêter des sommes d'argent, lui demander de lui rendre différents services en échange de rémunération, puisque Jonathan Bété avait à ce moment-là des problèmes financiers. Il y aura finalement un total de 25 rencontres. Le seul moment où Jonathan Bété se compromet, c'est lors d'une partie de golf au cours de laquelle il va formuler un commentaire à l'égard du maillot d'une jeune fille âgée d'environ 10 à 12 ans, selon les policiers. Mais Jonathan Bété aurait ensuite ajouté « Oui, mais elle est un peu jeune ». Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'à plusieurs reprises, les policiers lui ont demandé de passer le test du polygraphe. Il a parfois refusé, d'autres fois, il a laissé entendre qu'il pourrait s'y soumettre sous certaines conditions, conditions que les enquêteurs ont par la suite refusées. Les documents nous apprennent aussi que ses proches à Jonathan Bété ont également fait l'objet d'une surveillance, notamment par caméra ou encore écoute électronique. Il faut rappeler en terminant que Jonathan Bété ne fait face à aucune accusation en lien avec l'enlèvement ou encore le meurtre de Cédrica Provencher, que les allégations contenues dans les documents n'ont pas été prouvées devant le tribunal. Les renseignements, toutefois, ont permis aux enquêteurs d'obtenir des mandats de perquisition et l'avocat de Jonathan Bété souhaite faire invalider ses mandats afin que la preuve recueillie lors de ses perquisitions soit écartée lors du procès qu'il devra subir pour possession de pornographie juvénile.
Un accident qui est survenu à Longueuil.
Oui, accident spectaculaire. Au moins deux véhicules qui sont impliqués. C'est survenu hier soir sur la rive sud de Montréal. Trois personnes qui ont été transportées à l'hôpital. On ne craint pas pour leur vie. La nature, la cause exacte n'est toujours pas connue. Il y avait un important périmètre, là, le temps de ramasser les débris qui avaient été érigés.
Un incendie à Saint-Damas.
Une porcherie qui a été la proie des flammes au cours des dernières heures en Montérégie. La Sûreté du Québec qui parle de dommages majeurs estimés à près $1 million. Plusieurs centaines de bêtes ont péri dans l'incendie. Mais selon les autorités, il ne s'agit pas d'un incendie criminel.
Tony Accurso a obtenu une remise en liberté provisoire, mais des conditions plus sévères que celles qu'il avait eues en première instance.
Oui, voilà, en attendant la décision sur l'appel du verdict et de la peine qui ont été prononcées contre lui. Décision de 9 pages quand même, dans laquelle ce qu'on apprend, entre autres, les conditions assez sévères, plus sévères que celles durant les procédures en première instance. Donc, l'obligation, entre autres, de remettre son passeport, de ne pas quitter le Québec, doit déposer une caution personnelle de $50 000. Son fils doit également déposer une caution de $75 000 et un tiers, $25 000 en plus de tout ça. Je rappelle que son avocat a fait valoir que son client, pendant toute la durée des procédures, n'avait jamais manqué à ses obligations. La Couronne demandait plutôt au tribunal de laisser l'ex-entrepreneur derrière les barreaux pour ne pas miner la confiance du public envers le système de justice. La juge qui note toutefois, et je cite, que le requérant me convainc que son appel peut être nettement soutenu, fait valoir que durant les délais, il pourrait avoir de bons délais avant que l'appel soit entendu et que donc il pourrait passer une bonne partie de sa peine derrière les barreaux à l'attente d'une décision s'il avait été maintenu en détention. Ajoute que le public va comprendre qu'un processus d'appel fait partie intégrante de notre système de justice.
Et la dernière, c'est un homme qui a été dans l'actualité pendant des années, c'est Robert Latimer, qui demande un pardon ou un nouveau procès.
Oui, son avocat demande au premier ministre Justin Trudeau et à la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould, d'étudier les deux options. Son avocat qui estime qu'une erreur de droit a été commise, bien que Robert Latimer ne doive plus se soumettre à des conditions de remise en liberté. Sa condamnation à la prison à vie fait en sorte qu'il doit constamment vivre avec la menace de se faire révoquer sa libération conditionnelle. Je rappelle que la fille de Robert Latimer, Lucie, qui souffrait de paralysie cérébrale après avoir manqué d'oxygène à la naissance, avait 12 ans lorsque son père l'a tué en octobre 1993, l'avait intoxiqué au monoxyde de carbone dans son camion.